Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
1 Samuel 30. J'aimerais ce soir m'adresser à tous ceux et celles qui ont dans leur vie, peut-être qu'une seule fois, vous avez vécu un moment difficile. D'accord. Qui peut dire, Bruno, il m'est arrivé une fois peut-être dans ma vie de vivre un moment difficile. D'accord, le reste d'entre vous, je ne sais pas où vous étiez. Avez-vous déjà vécu un moment difficile ? 1 Samuel 30 nous dit, « Lorsque David arriva le troisième jour à Tiglag, avec ses gens, son armée, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. » Écoutez bien ça, David était parti et les gens avaient fait une invasion dans son camp et avaient brûlé Tiglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus de force, la force de pleurer. Imagine la scène. Et souvent les chrétiens ne veulent pas pleurer parce qu'ils ont la foi. Mais la foi n'a jamais empêché de pleurer. Jésus pleura. Il y a des moments dans ta vie, malgré ta foi, ça fait mal. Et tu sers Dieu et tu viens à l'église et tu as l'impression que l'ennemi t'a tout enlevé. Il y a des leaders dans ce lieu ce soir, des leaders qui ont servi Dieu depuis 5, 10, 15 ans. Vous avez tout donné et vous avez l'impression d'être sec, totalement desséché, de ne plus avoir envie de donner quoi que ce soit. Vous avez envie de faire un grand break qui va durer une éternité. Et vous dites, à quoi ça sert de servir Dieu? Je sers Dieu, mes enfants ceci, ma femme cela, mes finances. Et David là arrive à un moment où il rentre de guerre avec son armée et sa famille, sa femme, ses enfants et tous les femmes, les enfants de son armée ont été enlevés. Tout a été saccagé. Les deux femmes de David, à l'époque, Ancien Testament, les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Combien je comprends ce passage. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et voici la clé ce soir. Tout le monde dit « mais David ». Dites « mais David ». Regarde ton voisin et dis-lui « mais David ». Trilance son oreille s'il faut. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Akimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Tout le monde dit « consulter ». Et David consulta l'Éternel en lui disant « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je ? » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Écoutez bien ça ce soir. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Ils conduisirent auprès de David, ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'ils eurent mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voici 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » J'ai tellement à dire là. « Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens. sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Nous avons brûlé Tiglag. Intéressant. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe ? Elle répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Il y a peut-être un moment maintenant même où le diable célèbre sa victoire contre toi. Ou en ce moment, il pense que ah, c'est bon, on l'a bien massacré. On l'a bien pressé. Chaque fois que je lis ce passage-là, je pense à Jésus-Christ qui va en enfer. Il va en enfer et il descend dans une prison. Et j'imagine l'ennemi et tous les démons en train de danser. On a eu le prince de vie. On a eu le prince de vie. Ta-dam, 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 ta-dam. C'est forcément du hard rock. Et ils sont là, zat. Et tout d'un coup, au bout de 3 jours, t'entends ting-ding. Et Satan qui dit à ses démons, on a oublié un de nos copains ou quoi ? Ah non, chef, tout le monde est là. Tout le monde est là. Hein, ouais, tout le monde est là. Et au moment où il ouvre la porte, il se prend un poing, traverse les portes, les murs, les univers, il vole encore aujourd'hui. Et Jésus fait, je prends les clés du séjour des morts, je prends les clés de la vie, je prends les clés et je ramène tout ce qui m'appartient avec moi. On s'en va. Écoutez bien cela. Le pire moment pour abandonner Dieu, c'est quand tout va mal. Parce qu'en général, en pleine victoire, personne ne veut abandonner Dieu. Donc attends, tout aille mieux, et ton envie d'abandonner passera. C'est tout simple. N'abandonne jamais quand tout va mal. C'est exactement pour ça que tout va mal. Pour que tu abandonnes. Le but de l'ennemi n'est pas que tout aille mal. Le but de l'ennemi, c'est que tu abandonnes. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en sorte que tout aille mal, je maille, du verbe mailler. Et il dit ici, il faisait la fête, buvant, dansant à cause du grand butin. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux. D'où l'expression « espèce de chameau ». C'est de là. Et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Ancien Testament. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin. Juste une remarque. À l'époque, il n'y avait pas de scanner pour scanner avec des barcodes tout ce que les gens possédaient. Ils savaient exactement ce qu'ils possédaient. Nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas que le diable les vole parce qu'ils ne savent pas qu'ils possèdent ce qu'ils possèdent. Ding. Et c'est une vie spirituelle intense quand tu passes du temps avec Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et tu vois ce que tu possèdes avec Dieu. Et quand le diable ose s'approcher de ce que tu possèdes avec Dieu, tu as le droit légal de lui dire « Hey, ça, c'est à moi. Mon roi me l'a donné. Ôte tes pattes de là. » Écoute bien cela ce soir. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » Et David arriva auprès des 200 hommes qui avaient trop été fatigués pour le suivre. Et qu'on avait laissé au torrent de Bézor, ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. J'aime ce cœur de berger. Il va en guerre. Un groupe de frères et de sœurs en Christ disent, on peut plus aller en guerre, on en a marre, on en a marre, on en a marre des groupes de maisons, on en a marre des groupes de prison, on en a marre de l'église, on en a marre de pasteur Steve, en plus pire c'est pasteur Charles, on en a marre. Et pourtant Charles, Steve, les leaders du groupe de maison continuent à se battre, sont au front jour après jour, nuit après nuit, prient pour le peuple, intercèdent, jeûnent, s'occupent de leurs membres fidèlement, se battent mois après mois, année après année, sont fatigués. En route, certains abandonnent, certains baissent les bras, certains disent « je ne peux plus avancer ». Puis le jour vient où la victoire est acquise. Et là, tout le monde s'assoit et tout le monde fait le point et on retrouve cette armée qui avait abandonné David, trop fatigué. Et le cœur d'amour que nous devrions avoir, c'est « comment ça va ?» Toi qui as abandonné le combat, toi qui n'as pas pu te battre à mes côtés, comment est-ce que tu vas ? Écoutez bien ce soir, c'est important comme concept, comme principe fondamental de l'Église de Christ. Et tous les hommes méchants et vils, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'ils les emmènent. Ouais, Wext, les gars. Tu ne mérites pas ça, tu ne t'es pas battu à mes côtés. Moi, je me suis battu. Moi, j'ai une victoire, toi, non. Tu m'as abandonné. Tu as quitté l'église, tu as quitté le groupe de maison quand j'avais plus besoin de toi. Mais David dit, j'aime David, n'agissez pas ainsi, mes frères. Au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous et qui vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour. Et dans la suite, elle en a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Ta victoire et ma victoire ne vaut rien si elle n'est pas au bénéfice de ceux et de celles qui n'ont pas la force de se battre. Je vais vous redire ça. Ma victoire et ta victoire n'a pas de valeur si elle n'est pas au bénéfice de ceux qui n'avaient pas la force de se battre. Il arrive un moment, et ce moment est très très proche, et là je parle ce soir en tant que prophète. Ceux et celles qui nous ont abandonnés, pas seulement nous, je parle le corps du Christ, verront la victoire dans la vie de l'Église que Dieu est en train d'élever. Et à ce moment-là, dans le corps du Christ, il y aura ceux qui vont dire « Hé, même si à l'époque tu avais baissé les bras, toi aussi, viens prendre la part que Dieu te réserve. » Ça, quand une église marche comme ça, quand une église comme la nôtre ne se bat pas que pour elle, mais quand elle se bat pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se battre, qui sont trop fatigués, quand une église réfléchit, vit et pense comme ça, Dieu s'assure la victoire. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes qui avaient dit à David, on ne partagera pas, c'était une loi inscrite. Ceux qui se battaient avaient droit au butin, ceux qui ne se battaient pas n'avaient pas le droit au butin. C'était une loi. Mais David a changé la loi. Écoutez bien ce que le roi m'a dit cette semaine. C'est toujours un roi qui a un cœur de berger qui changera les règles de la guerre. C'est toujours un roi qui a le cœur d'un berger qui peut changer les règles et les lois dans une guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque toi et moi, on comprend que nous sommes des fils et des filles du roi, nous sommes des rois aux côtés du roi des rois. mais que nous gardons un cœur de berger, un cœur qui aime, qui pardonne, un cœur de douceur, un cœur qui ne tient pas de rancune. Alors nous pouvons changer les règles. Et au fur et à mesure, ceux et celles qui étaient abandonnés par Dieu, qui avaient abandonné Dieu, abandonné l'Église de Dieu, qui avaient baissé les bras, se sentiront à leur tour impliqués, restaurés, rassurés, même s'ils n'ont pas combattu pour la victoire. Ramenez ce principe-là dans votre propre famille, cher papa. Si tu as une victoire, ce n'est jamais pour toi. C'est pour ta femme et tes enfants. Chère maman, si tu as une victoire ce soir, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton mari et tes enfants. Cher leader de groupe de maison, cher leader de groupe de louange, leader de département, tous ceux qui servent en église, si tu as des victoires, elles ne sont pas pour toi, elles sont pour tous ceux et celles qui ne veulent plus se battre, qui n'ont pas envie de se battre, qui ne peuvent pas se battre. Pas parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont fatigués. Ce soir, nous voulons seulement vous encourager. Et on va prier pour vous tous. Et on va prier pour que le Saint-Esprit vous redonne cette force spirituelle si vous avez perdu. Cette énergie de revoir la nouvelle saison en disant, Seigneur, tu sais quoi, je veux être de ceux qui amènent les victoires. Mais peut-être que tu me diras ce soir, je suis fatigué. J'en ai marre de me battre. Alors soit je veux te dire de la part de l'Église ici, Extravagance, nous battrons pour toi. Nous battrons pour toi. Je sais que c'est un message bizarre parce qu'en général on dit « bats-toi et tu auras la victoire ». Oui, mais il y a des fois tu n'as pas envie de te battre. Alors Dieu décide d'envoyer ceux qui ont encore la force de se battre. Quand une église vit comme ça, personne ne se sent abandonné. Personne. Ce soir, il y a autour de vous et moi des hommes et des femmes qui se sentent abandonnés parce qu'ils ont baissé les bras. Et leur font entendre quelqu'un qui vient leur voir en disant « Tu sais quoi, moi, je me suis battu. Et ma victoire, c'est ta victoire. » C'est pour cela que demain, quand vous commencerez à vous battre sur le champ de bataille, spirituel, finance, ce que vous voulez, n'oubliez jamais que votre victoire peut être la victoire de plusieurs dizaines de personnes. C'est pour cela qu'une victoire est beaucoup plus grande que ce qu'on pense qu'elle est. Grand français. Une victoire, celle que tu auras ce soir, là, quand on va prier avec toi, est beaucoup plus grande et plus profonde que ta personne. Cette histoire m'apprend encore, et il y a plein de choses que j'aimerais dire ce soir, mais juste pour conclure, cette histoire me rappelle un principe fondamental. Les victoires que Dieu donne sont toujours plus puissantes que les défaites que l'ennemi inflige. Les victoires que Dieu donne sont toujours plus grandes que les défaites que l'ennemi inflige. Si quelqu'un tombe et entraîne avec lui dans sa chute notre personne, celui qui tient ferme attire vers Dieu des dizaines de personnes. Je vais vous le prouver. Christ est mort et ressuscité. Et par sa victoire, nous sommes tous vainqueurs. Tous. Donc, ce soir, en fait, vas-y, groupe de louanges, ce soir, j'avais un autre message. Votre adoration a tout shifté, tout changé. Et j'ai tenu à vous donner ce principe fondamental ce soir, extrêmement simple, mais très profond. Parce que je crois dans mon cœur ce soir que ce que Dieu veut faire là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à Extravagance, et dans d'autres églises locales que Dieu va bénir, c'est d'inspirer son église à dire, attention, 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 toutes les victoires que tu engranges en ce moment ne sont pas que pour toi, elles sont surtout pour les autres. Chaque fois que tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie de te réveiller, que tu es fatigué, que tu as sommeil, et que ton lit s'épelle P-A-R-A-D-I-S. D'accord, paradis, c'est pas grave. Tout le monde fait... Quand ton lit s'épelle paradis, tu dis non Seigneur, je suis bien là. Ce qui me motive, ce qui me pousse à me lever le matin. C'est vos visages. C'est vos familles, c'est vos vies. Et j'espère ce soir vous inspirer en vous disant, mais si tous on se battait comme ça, on aurait des dizaines de gens sauvés par Christ. Un genou fléchi devant le trône de Dieu, c'est potentiellement des dizaines de genoux fléchis devant le trône de Dieu. Tu portes en toi ta nation. Tu portes en toi le salut d'une nation. Si Paul dit, il dit, les gens vont, je paraphrase en Romains 10, il dit, les gens vont se donner à Christ, mais comment peux-tu se donner à Christ si personne ne prêche ? Ce qui me motive le matin, ce qui me motive en ce moment plus que jamais, c'est franchement vos visages. Certains sourient, d'autres pleurent. Je les vois les bras baissés, je les vois les bras levés, je me dis, tu sais quoi, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, tu es dans une saison. Je veux dire, les saisons changent. Il y a toujours le beau temps vient après la pluie, il y a toujours l'été après l'hiver, il y a toujours le soleil qui se lève après la nuit sombre. Et il y aura ceux qui sont forts ce soir. J'ai eu des moments dans ma vie où j'avais perdu 10 kilos, déjà sur moi, 1 gramme c'est énorme, mais 10 kilos c'est fondamental. Et je pleurais, je dis Seigneur, je peux pas. Et mon épouse, et Steve, et Marc, et mes frères, et mes parents ont tenu le cap pour moi. Luc Dumont m'a appelé plusieurs fois, à un moment j'avais envie de tout lâcher, tout. Quand je dis tout, c'est tout, hein, y compris mon mariage. Toujours aimé Elodie, il n'y a pas de problème là-dessus, mais j'avais envie, j'en avais marre. Et une parole. Un frère au Canada qui te dit, en ce moment même, je ne sais pas pourquoi Bruno, il est pour moi minuit et je prie pour toi maintenant même, je fléchis les genoux, je me bats pour toi mon frère, ne baisse pas les bras. Ça peut pas, tu ne peux pas enlever ça de ta vie. La victoire de quelqu'un a sauvé ma vie. Ce soir, je veux honorer les leaders qui depuis maintenant plusieurs années sont à mes côtés. Et ceux de Steve et de l'église, et vous vous battez hiver, printemps, automne, été spirituel. Avec ou sans armes. Avec ou sans salle. Combien de fois on a vécu ça ? Pas de salle. Pas de salle, littéralement pas de salle. Mais la présence de Dieu. Première fois que Luc Dumont vient à La Réunion, il vient pour un concert. Le maire donne son accord et la veille du concert, le comité du maire donne son veto. J'appelle, à l'époque on était une petite église, quoi, 80 membres, 100 membres, j'appelle les chrétiens. Venez nous rencontrer, vite, on s'appelle, venez, 14e, il est 11h du soir, il faut prier toute la nuit pour qu'on ait l'accord du maire, pour qu'il puisse faire le concert le lendemain soir. Ils sont appelés ça, Christian ? Tout le monde prie, car que bato coria, chandra que papato coria, santa caria, sandeke. Et la réponse du maire tombe le lendemain, le bâtiment est prêté gracieusement pour le concert de Luc Dumont. Premier concert de Luc Dumont qui va changer ma vie. Certains ont dit, c'est pas de Dieu, laisse tomber. Et d'autres ont dit, on va se battre. Même pour ceux et surtout pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et ça me rappelle cette histoire dans Actes 16 où Paul et Silas sont en prison. La Bible dit qu'à minuit, ils élèvent leur voix et ils chantent des cantiques au roi des rois. Et au bout de quelques temps, la louange qui vient d'un cœur sincère, il n'y a pas de groupe de louange, il n'y a même pas Alex. J'ai vérifié dans le grec. Il n'y a pas Harold, il n'y a pas de Nord. Et il loue Dieu, Paul, et Silas, deux gars louent Dieu, et les anges entendent, Dieu dit, j'ai deux fils dans une prison qui sont en train de me louer, allez les délivrer. Les anges débarquent, parce que la louange attire les anges. Secoue la prison, la Bible dit que les murs de la prison ont été secoués, et tous les prisonniers autour ont été délivrés. Parce que ta victoire dans la louange brise les chaînes de ceux et de celles qui ne peuvent pas encore louer. C'est pour cela que lorsque nous venons à l'église le dimanche, il faut louer le roi, il faut prier avec ferveur, il faut aimer Jésus parce que ma victoire est en train d'avoir un impact maintenant même sur des dizaines et des dizaines de gens qui ne savent pas encore. C'est ça la vérité ce soir. Et ceux et celles qui, avant nous, ont baissé les bras, tous les frères et sœurs qui sont chrétiens ce soir et qui pleurent loin des églises, blessés par l'église, blessés par les pasteurs, blessés par les curés, et si on allait les chercher, leur dire: je me suis battu pour toi, je suis là pour toi ce soir, ne baisse pas les bras, retrouve Jésus, retrouve-toi une bonne église, pas forcément extravagance, une bonne église, il y en a plein à La Réunion, je n'ai pas encore les noms, mais il y en a sûrement plein. Je vais chercher. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas prier juste pour que... Je vais être franc avec vous. Je ne vais pas prier pour que vous ayez un moment cool avec le Saint-Esprit et que vous priez pour vous. En fait, je vous ai demandé une faveur ce soir. Venez demander au Saint-Esprit de vous remplir, pas pour vous, mais pour les autres. En faisant ça, vous serez bénis. En faisant ça, vous aurez votre miracle. Paul et Silas ont été délivrés, d'accord, de la prison. Mais ils ont été délivrés, eux, avec tous les gars autour. Il y a ce soir, en ce moment précis, un moment où la porte de Dieu est ouverte, une porte immense pour vous tous et pour moi et toi. Et on est ensemble, on peut se prendre la main et passer par la porte. Ah, Seigneur, je vais prendre ta main. Je vais y aller à fond. Et pour ceux et celles qui viennent ce soir, j'en ai marre, je suis fatigué, bienvenue. À chaque fois que j'en ai marre, je suis fatigué, je me dis: Bruno, rappelle-toi, à chaque fois que tu as dit ça, tu avais tort. À chaque fois qu'on voulait abandonner, on avait dit plein de bêtises. Je me défie, on avait tort. Un jour plus tard, tout se passe bien, tout va mieux. Là, on se dit: heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement ce soir que tu n'as pas abandonné. Heureusement que tu n'es pas parti de la maison. Heureusement que tu n'as pas baissé les bras. Et vous, les leaders, heureusement, vous êtes encore là ce soir. Vous êtes sur le point, vous êtes sur le point de voir un réveil à La Réunion. Vous êtes sur le point de voir vos familles venir ou revenir vers Jésus. Ma sœur Sandrine, qui est là ce soir, pendant 15 ans, je crois, elle a refusé l'amour de Christ, avec des raisons et avec des torts. 15 ans. Ce soir, elle sert le roi. C'est elle qui a fait, avec son équipe, le site de l'église, le site de l'église, toute seule, avec ses deux mains. À une époque, elle était loin de Dieu. Je n'ai jamais mon père et ma mère qui priaient pour elle. Ma mère qui pleurait. Seigneur, sauve ma fille. On a fait plein d'erreurs envers elle. On ne savait pas comment lui parler de Jésus. On a fait plein de bêtises. On était trop religieux, trop à côté de la plaque. Mais dans notre cœur, on s'est battu pour son âme. Et on n'a pas baissé les bras. Et ce soir, elle est là. Elle sert le roi et elle aime Jésus. Alors on va demander ce soir à tous les leaders extravagants, s'il vous plaît. Si vous êtes leader d'un groupe de maison, un groupe d'extravagance.